on peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 7 ans ou 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Rémi Barré, Pierre-Édouard Magnan, Emmanuel Dancourt et Fred Hermel. Dans un instant, on va parler de ces deux femmes expulsées d'un avion car elles étaient obèses et prenaient trop de place. Faut-il faire payer un supplément pour les personnes en surpoids dans les transports? On vous attend au 3216 et sur l'appli RMC. Il y aura RMC Conso comme chaque jour, 14h30 avec Charlotte Méritant. On va parler de la folie des colis mystères sur Internet et sur les marchés. Vous savez, on vend des colis qui ne sont pas arrivés à destination et vous les payez un certain nombre d'euros, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et quand vous ouvrez, eh bien on va se demander si c'est un bon plan ou une arnaque. Voilà. Et puis il y aura les immanquables, Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
Oui, on parlera notamment de parents qui réclament de l'argent pour les cours non dispensés par des enseignants, en fait, des enseignants qui n'ont pas été remplacés.
Ah, hein,
quand même 10 euros par élève et par heure de cours manqué. Et puis on parlera également de Gabriel Attal qui salue ce matin des résultats historiques en matière de répression de la fraude fiscale.
Et il y aura Vincent Serroussi, notre humoriste. Ce sera à 14h50 dans Estelle Midi.
RMC Estelle Midi.
14h03 sur RMC, on va s'intéresser à l'histoire du jour. Ça se passe en Nouvelle-Zélande, où deux passagères d'un avion ont été expulsées au motif qu'elles étaient trop grosses. Elles ne pouvaient pas baisser les accoudoirs de leur siège, alors l'équipage les a sorties de l'avion et leur a indiqué qu'elles auraient dû réserver 4 sièges au lieu de 2. Mais Rémi, quelle est la règle en vigueur concernant les personnes en surpoids dans les transports? Est-ce qu'elles doivent réserver 2 sièges au lieu d'un?
Bah en fait, tout dépend de la compagnie sur laquelle vous volez. Mmh. Sur certains vols, les personnes en surpoids peuvent bel et bien être amenées à payer un second siège. Tant qu'il reste des places disponibles, ce second fauteuil est proposé gratuitement par toutes les compagnies. Mais l'américain United Airlines a récemment décidé qu'un passager incapable de boucler sa ceinture ou de baisser son accoudoir et ne pouvant bénéficier de place libre à ses côtés, eh bien devrait payer 2 sièges dans l'avion suivant. Attention, hein. C'est pas sur ce vol-là. C'est-à-dire que si vous arrivez dans le vol, vous avez réservé qu'un siège, vous n'êtes pas capable de boucler votre ceinture, vous n'êtes pas capable de baisser votre accoudoir, et bien à ce moment-là, on vous dit, monsieur ou madame, vous êtes prié de descendre dans l'avion, et vous devrez prendre un second siège, donc payer 2 sièges dans l'avion.
C'est double peine.
Suivant, exactement. Et en cas de refus, eh bien, il y a quand même une possibilité, c'est qu'il ne volera pas, la personne concernée ne volera pas, elle se fera rembourser. D'après la compagnie, cette mesure elle a été mise en place à la suite de 700 réclamations envoyées l'an passé, plainte déposée par des passagers contraints de partager leur siège avec un voisin corpulent. Même politique appliquée chez Continental ou encore chez Delta. Et pour ce qui est d'Air France, eh bien les règles sont claires. Les personnes corpulentes peuvent réserver une place supplémentaire avec une ristourne de 25 à 33%. Ceux qui ne l'auront pas fait et qui donc ne seront pas capables de boucler leur ceinture de la même manière ou qui dépasseraient un certain poids, ils pourraient se voir refuser l'accès à bord si le vol est complet.
Attends, c'est-à-dire qu'en fait, tu es en très fort surpoids, donc tu réserves une deuxième place à 25%, mais c'est-à-dire que à moins 25, mais c'est-à-dire que tu donnes un justificatif au moment que tu réserves?
Non, tu prends deux sièges pour une période, tu prends deux sièges.
Mais n'importe qui pourrait prendre deux sièges et bénéficier d'une ristourne, tu vois. J'imagine qu'il y a quand même un poids limite,
Non, parce qu'il y a, quand tu arrives à bord du vol.
Oui, mais le commandant de bord, il sait pas que t'as réservé à moins 25.
Non, mais il voit bien que le siège à côté est vide.
Oui, c'est vrai.
Eh oui.
Bon, alors.
Et donc, il y a un problème.
Oui, c'est vrai. Faut-il faire payer un supplément aux personnes en surpoids dans les transports? Je vais commencer avec vous, Emmanuel Dancourt.
Bah, c'est la double peine, quoi. Quand on est. Alors là, on parle de très gros surpoids. Hein. On parle pas de surpoids, on parle d'obésité. Oui. On sait que l'obésité, il y a des facteurs environnementaux, des facteurs psychosociaux, il y a des facteurs génétiques. C'est pas juste que tu bouffes comme quatre et que tu fais pas de sport. C'est bien au-delà, l'obésité. Ça, ce serait le surpoids. Mais l'obésité, tu n'as peut-être pas appris, en ayant déjà des problèmes éventuellement génétiques, mais tu n'as peut-être pas appris à bien manger. C'est peut-être pas possible là où tu habites, de manger sain, de manger local. t'es peut-être pas en mesure pour différentes raisons. Moi, par exemple, je peux pas faire de sport parce que j'ai une cheville en vrac. Donc, tu n'es pas en mesure de faire du sport. T'as un environnement qui est pas porteur. Et c'est la double peine. Les deux femmes dont on parle, elles étaient en fauteuil roulant quand même. Je sais pas, ils auraient peut-être pu. Alors, on leur a reproché de ne pas avoir téléphoné à la compagnie avant. Pour autant, elles n'ont pas été gérées comme si elles avaient un fauteuil roulant. Qu'est-ce qui empêcherait les compagnies
quand
aujourd'hui?
Un fauteuil roulant, tu le dis avant de prendre l'avion, en fait.
Bah, je sais pas si ça a été dit.
Non, en fait, c'est ça. Quand tu as un handicap, tu le dis avant de prendre l'avion et on te prend en charge.
Une personne sur huit dans le monde est obèse. Ouais. À quel moment les compagnies aériennes, les trains, etc., ne s'adaptent pas pour avoir au moins par avion, si on reste sur les avions, deux ou trois sièges plus larges. D'accord. Au pire, ils servent pas. Au pire,
et qui va payer la... Alors attends, je dis n'importe quoi. Imagine, tu payes ton billet d'aller 100 euros. D'accord. Donc toi, tu payes 100 euros. Derrière, il va y avoir des sièges plus larges pour une personne obèse. Mais t'es bien d'accord qu'en fait, de trois sièges, t'as été obligé de faire deux sièges. Donc c'est un coût. Mais ce coût, si la personne en surpoids paye le même prix que toi, bon, pas de problème. Mais sauf que la hausse des prix. Le fait, en fait, d'avoir que deux sièges au lieu de trois.
Les billets augmenteront.
Le prix des billets pour les autres passagers vont monter. Donc, à un moment, est-ce qu'on accepte ou pas?
C'est une responsabilité collective. Donc, on accepte. Deux sièges par avion, ça doit pouvoir se faire. La société évolue clairement pas dans le bon sens si on parle d'obésité. Mais en attendant, une personne sur huit. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, on prend des mesures, on accueille, on discrimine pas, on fait pas la double peine pour des gens qui sont déjà très très mal dans leur corps, pour qui la vie est déjà extrêmement difficile. Donc voilà, on s'adapte.
Mais en fait,
c'est pas des valises.
Non, mais
des valises, plus tu mets du poids, plus ça use du carotène.
Les valises, excuse-moi. Une valise, si t'as un kilo de trop sur ta valise, tu vas payer 35 euros.
Parce que c'est une valise. Mais là, on est en train de parler de dignité humaine. Oui. On est en train de parler du corps humain.
Sauf que
ça ne peut pas être sur les mêmes critères.
Je suis d'accord. Mais évidemment que c'est pas des valises et que tu les mets pas en soute. Ça, c'est pas j'entends bien.
Non, mais c'est bien de l'entendre dire.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand tu es obèse et que tu dois prendre l'avion, tu dois appeler avant. Parce qu'il y a aussi un moment, si tu n'as réservé qu'un siège, tu penses aussi à la personne à côté. Sur un long courrier de 10 à 12 heures, bon, tu peux aussi
penser... C'est pour ça que ma solution irait pour tout le monde. Si tu mets deux sièges pour personne
en premier... Il faudrait un siège sur 8.
Bah oui,
c'est pas, j'ai jamais dit ça. J'ai dit, il y a une personne sur huit dans le monde qui est obèse. Il faudrait donc un minima que les avions, les transports, les cars s'adaptent un minimum avec peut-être deux ou trois sièges dans l'avion réservés à ces personnes-là. Au pire, attends, mais quatre. Tu fais des calculs, enfin ça se calcule, ça réveille.
C'est pas parce que t'es obèse que tu voyages avec des obèses.
Au pire.
Non mais imagine que dans un avion il y a cinq personnes qui sont en situation d'obésité.
Rémi, les sièges sont pris, ils sont pris. Tu pars dans l'avion d'après ou l'avion d'avant. Enfin,
quand ils font du surbooking, ils vendent plus de sièges qu'il y en a. Ils s'en sortent toujours.
Et au pire, ce sont des personnes à IMC plus classiques qui prennent ces sièges. Il n'y a pas d'obèses dans l'avion.
Fred Hermel, est-ce qu'on fait payer un supplément aux personnes en surpoids dans les transports ou pas du tout? On essaie de s'adapter, comme dit Emmanuel Dancourt, ou même on donne deux places pour le prix d'une?
Non, je pense que c'est une question qui doit se voir en amont. C'est-à-dire que tu ne te présentes pas un avion alors que tu as un problème d'obésité grave, comme si de rien n'était. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, on est tous d'accord, on est tous pour tout le monde. Si on se retrouve à côté d'une personne vraiment en situation de forte obésité juste à côté de soi, je pense que là, nos belles idées, tout de suite, elles s'envolent.
Oui.
Là-dessus. Bon,
comme quand on est à côté d'un bébé aussi.
Oui. Non, mais donc le truc, c'est qu'il faut pouvoir traiter les personnes obèses comme on traite les personnes handicapées. C'est-à-dire qu'il y a. Et dans le bon sens, c'est-à-dire dans le fait ce qu'on appelle la discrimination positive, en disant on doit s'adapter, d'accord, etc. Mais avant, on se présente pas comme ça en disant voilà, parce qu'il y a une question de sécurité. Si vous imaginez, dans les avions ils font très très attention, une personne obèse qui n'arrive pas à bouger facilement dans le couloir d'un avion alors qu'il y a une urgence d'évacuation. Mais non, mais je suis désolé, les hôtesses sont obligées. Par exemple, tu réserves, moi c'est ce que je fais souvent, les hublots. On te demande de parler anglais.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, on te demande de parler anglais. On te demande si tu es assez agile pour pouvoir.
Les issues de secours.
Les issues de secours. Ah ouais. Quand tu réserves une issue de secours, tu dois répondre à plusieurs questions. Et l'hôtesse vient te voir, elle te fait un discours.
C'est vrai.
Et elle contrôle que tu comprends bien ce qu'elle te dit. Et si en cas d'urgence, tu seras capable de.
Les sièges spéciaux dont parlait Emma, tu les mettrais pas aux issues de secours.
La question de la sécurité se pose. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cas avec Air New Zealand. La question de la sécurité se pose avec des personnes qui ont une mobilité réduite. Donc voilà, ça doit se prévoir avant. Donc je suis désolé, la personne elle peut pas fermer ça, elle peut pas faire cliquer sa mettre sa ceinture, elle peut pas voyager parce qu'on est obligé de mettre sa ceinture pour les
oui cliquer. Oui, bah bien sûr.
Mais,
oui.
Tu vois ce que je veux dire, donc c'est avant le départ que les choses doivent être prises et une personne obèse doit informer la compagnie et que des solutions soient trouvées.
De le faut les trouver en amont. Effectivement, comme quand tu as un handicap et un fauteuil roulant où tu préviens évidemment.
Voilà,
en amont, mais est-ce que justement ce qui devrait être la norme finalement Pierre-Édouard Magnan, c'est effectivement une personne qui est en très très fort surpoids aurait deux places plutôt qu'une, mais elle paierait quand même un petit supplément quoi. Parce que la personne qui voyage en famille nombreuse par exemple, elle est à 5, elle aussi on va dire qu'elle est pénalisée parce qu'elle est obligée de prendre 5 places, etc. Donc à un moment, si tu prends deux places, ne pas payer deux places, ça me paraît normal parce que tu es pour rien, t'es malade, etc. Mais peut-être un petit supplément quoi.
Non, fais pas payer un supplément pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant et qui prend plus de place. J'ai envie de dire, moi je me rappelle de cette émission ancienne où on disait salaud de pauvre. Là, on va inventer les salauds de gros. Et en fait, au lieu de lutter contre l'obésité, on lutte contre les obèses. Et j'ai souvent dit, au lieu de lutter contre le chômage, on lutte contre les chômeurs. On retrouve à nouveau ces phénomènes de discrimination. Donc effectivement, il faut mettre en place des dispositifs, dire que globalement, là aussi, tu sais, on va toujours trouver le cas épouvantable ou le cas de ce, on va me trouver l'obèse qui par choix bouffe chez McDo tous les jours ou chez Quick ou chez KFC comme ça, j'en ai trois. Donc voilà, sauf que ça, c'est un cas d'école, c'est pas la réalité. L'obésité est un fléau sanitaire, est un problème de santé publique, oui, avant toute chose, qui devrait d'ailleurs être traité bien plus qu'il ne l'est. Quand on parle du fait maison, il y a des statistiques sorties récemment sur les tonnes de sucre qu'il y a dans tout ce qu'on bouffe, y compris les trucs salés, etc. Donc là, il y a des vrais sujets de fond à traiter sur les problématiques d'obésité, au-delà des dimensions génétiques.
Une fois qu'on a dit ça.
Ils sont autre chose. Mais tant qu'on l'a pas fait, tant qu'il n'y a pas cette politique de santé publique, on lutte pas contre ça, on doit mettre en place. En plus, dans les avions, vous avez toujours des zones, effectivement, d'abord, où il y a plus de largeur entre les deux sièges.
Ah oui, les places de devant.
Oui,
évidemment.
Les places de devant. Il faut transformer. Si dans chaque avion, je répète, quand les compagnies aériennes vendent 120% d'un avion, chaque fois qu'ils font ça, ils finissent toujours par se débrouiller et tout le monde prend son avion. Donc ça veut dire qu'on sait gérer de vendre plus de sièges qu'on en a. Donc il ne devrait pas y avoir de problème pour transformer 6 places en 4 places ou en tout cas 3 en 2. Et donc oui, c'est ça, 604, etc. Il n'y a aucune raison que ça pose problème. Et effectivement, on collectivise ça sur l'ensemble d'un avion, au sens premier du mot collectiviser, que Fred n'ait pas peur. On collectivise ça sur l'ensemble de l'avion. Et je veux dire que moi, quand je prends l'avion, sachant que on est beaucoup à prendre l'avion de manière très occasionnelle, si sur un avion ça représente 2-3 euros de plus, eh ben je l'assume dans le cadre du pays. Après, il y a des gens qui sont en tel état de surpoids de toute façon qu'ils ne sont plus en état de voyager.
Mais ça, j'entends.
Il faut un site qui en parle, on est dans un entre-deux. Ah. Et oui, effectivement, c'est une situation de handicap. Beaucoup d'obèses sont de fait dans une situation de handicap et doivent être traitées comme telles.
Ok, mais alors après, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir là, attendez, madame, est-ce que vous avez le droit de bénéficier de ces places ou pas? Et donc, tu vas avoir une pesée, j'imagine, parce que ça va être à partir d'un certain poids ou à partir d'un certain tour de taille. Donc, tu as une discrimination.
Non,
et le gars qui fait 2 mètres 2, il peut pas voyager en éco. Lui, il est obligé de payer une place en business parce que sinon, il peut pas mettre ses jambes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des places pour les grands, on fait des places pour les gros, puis après, on va faire aussi des places pour les enfants. Est-ce que c'est normal qu'un gamin de 3 ans paye une place tarif complet alors qu'il prend qu'un demi-siège? Mais tu vois ce que je veux dire? Après, on va arriver, si on commence à faire des places spéciales, on va arriver à des places spéciales pour tout.
On parle des enfants et d'un mec qui fait 2 mètres 2. Nous,
on mec qui fait 2 mètres 2, c'est un handicap aussi.
Non.
Si, bien sûr que je le vis pas.
En classe éco, vu la taille des sièges.
Non, Estelle, le handicap, c'est pas ça. C'est gênant.
Pour voyager.
C'est gênant pour voyager, mais il n'est pas handicapé. Là, on vous parle avec Pierre-Édouard d'un problème de santé publique gravissime et de gens qui vivent très très mal dans leur corps. Voilà de quoi on parle.
Un mec qui fait 2 mètres 2,
comparé à un mec qui fait 2 mètres 2 avec une personne obèse, je trouve ça super dur.
C'est un vrai problème. Mais les gens très grands n'ont jamais des dans les hôtels, c'est catastrophe parce que le lit.
Tu donnais des tendances en poids.
Les gens sont de plus en plus grands.
Et les gens sont de plus en plus grands.
Oui.
En particulier les.
Il va falloir moins de place dans les avions et qu'on fasse moins d'avions et ça fera plaisir aux écologistes et aux amis de.
Il y a le problème dans les Ouigo également.
Il y a un autre souci qui se pose, c'est la question de la rentabilité absolue que veulent les compagnies aériennes. Et il n'y a pas que les compagnies aériennes, parce qu'on pourrait parler aussi du train et notamment de la SNCF.
On a réduit
ces dernières décennies la taille des sièges, l'espace accordé à chaque passager pour en mettre un maximum, pour rentabiliser un maximum. Au bout d'un moment, on se retrouve.
Quand tu traverses les États-Unis en train, ou que tu prends le train aux États-Unis, c'est hallucinant la largeur des sièges.
Ils sont
c'est
énormes,
confortable.
Oui, mais parce que
les bons vieux trains corail des années 90, c'était des vrais chasteurs. Mais on était assis dans la deuxième classe.
Les deuxièmes classes, ça correspond à nos premières classes françaises. C'est incroyable, les trains américains. américains, ils se sont adaptés à leur population. Voilà. Et nous, il va bien falloir qu'on fasse un effort.
Alors, on est avec Mathieu qui nous appelle de Communet dans le Rhône et qui est chef de cuisine. Bonjour Mathieu.
Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour. Et Mathieu, vous voulez réagir sur ce sujet compliqué. Hein.
Ah ouais, moi c'est un sujet qui me fait bondir. Personnellement, je suis un obèse, je fais 140 kilos. Donc je suis pas encore un obèse extrême, mais je suis déjà bien bel obèse.
Vous êtes en surpoids quoi.
Voilà, sauf qu'aujourd'hui, l'obésité c'est pas un choix. L'obésité c'est une maladie. Est-ce que demain on va interdire à quelqu'un qui a un cancer de prendre un avion? On est constamment discriminé. L'autre jour, il y avait encore une émission sur l'obésité, votre collègue qui disait les obèses, ça dans un canapé, ça bouge des chiffres, ça bouge pas le cul.
Moi, je sais pas qui a dit ça, mais c'est pas nous, hein.
C'est si, c'est votre collègue, monsieur Landrieux. J'ai appelé parce que j'étais fou. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, comme ce que disait votre collègue Emma, la population va être de plus en plus grosse. Oui. Pourquoi dans des avions, on ne fait pas 5 ou 10 places pour les obèses dans les trains? Je pense que les compagnies aériennes ont suffisamment de moyens pour pouvoir accepter ça. Tout à l'heure, monsieur Marshall compare le supplément qu'il paye pour son chien à un supplément qu'un obèse devrait payer. Donc en gros, on compare un obèse à un chien, et on marche sur la tête. On marche sur la tête. Moi aujourd'hui, j'ai 140 kilos et avec mon métier, j'ai beaucoup voyagé. J'ai travaillé en Australie, en Écosse, au Japon, en Amérique du Sud. Aujourd'hui, j'ai perdu 3 fois plus de 60 kilos. Je suis tombé de 78 kilos, je suis monté à 168 kilos. Et en ayant des poids, sans parler des poids extrêmes, quand on voyage pendant 12 ou 13 heures et qu'on a des accoudoirs encastrés, c'est vraiment pas agréable. Oui. Et après, une autre chose. Par contre, je me mets à la place de quelqu'un entre guillemets normal qui est à côté d'un obèse. C'est sûr que c'est pas agréable pour lui de voyager.
C'est compliqué.
Mais pour nous non plus, c'est pas agréable. Quand on doit prendre le train, c'est un calvaire. Il faut appeler dire qu'on est plus gros et payer plus cher. Tout ça parce qu'on a un tout petit peu de gros que la norme. Et alors qu'aujourd'hui, la norme va devenir de plus en plus obèse. Je trouve ça pas normal. Je suis désolé. Ça me rend fou. Et encore une fois, l'obésité n'est pas un choix. Moi, mon gros cul, je l'ai pas choisi. Il faut que je pose dans l'avion quand je voyage. Désolé, mais c'est vrai. Mais ça me rend fou de devoir payer plus cher. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'actif. Je suis obèse pour plein de facteurs. J'ai perdu encore une fois 3 fois du poids. Je les ai toujours repris. Je vois pas pourquoi je devrais payer mon avion plus cher que les autres. Si les compagnies aériennes sont pas capables de faire 3 sièges ou 4 sièges pour les obèses, on est une société qui marche à l'envers.
Alors, Mathieu, juste, petite question. Admettons, dans les avions, mettons, il y a 4 places pour les personnes, qui sont en surpoids ou qui sont obèses. On est d'accord que les places sont plus grandes. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous seriez prêt, quand même, je veux dire, à payer un peu plus cher pour avoir des places plus grandes? Ce qui peut être logique, Mathieu.
Si une personne qui a un cancer, on le ferait payer plus cher. Si
en fait, c'est pas ça. C'est que la personne qui a un cancer, elle va prendre une place.
C'est pas un choix, ce n'est pas
mais
un
je
choix.
Sais bien, Mathieu, c'est pas le problème. Si vous avez des places spéciales,
est-ce que la compagnie aérienne vient de pas me dire des obèses, il y en aura de plus en plus. Demain, ça va être
notre. Vous avez raison, Mathieu. C'est la moitié de la population en 2035 sera en surpoids. Sauf que.
On prendra pas l'avion.
Mathieu, regardez, aujourd'hui en avion, vous avez plusieurs classes d'avions. Vous avez la place éco, la place premium éco qui est un peu plus grande, la place business qui est beaucoup plus grande, et à chaque fois,
on est déjà constamment mis sur la touche, on ne voit pas.
Non mais plus la place est grande, plus
on va devoir payer plus cher.
Mais c'est parce que
4 ou 5 places, ils font des milliards d'euros de chiffre d'affaires, les compagnies aériennes.
Mais d'accord, mais si les places sont plus. D'accord, mais si les places sont plus grandes, si au lieu d'avoir 4 places dans une rangée, vous en avez que 2.
Ce
que
je veux dire, c'est pas toutes les places, Estelle, on parle de 3 places.
Et j'entends bien. Non bah un peu plus, mais. Mais non, parce que si on se dit que c'est un quart de la population qui va être obèse, regardez, les normes PMR, par exemple, dans les immeubles, tout le monde n'est pas handicapé. Mais n'empêche que vous avez les normes PMR sur tous les appartements. Donc, il va se trouver qu'en avion.
Le handicapé, elle paye le plus cher? Ou c'est la société qui prend en charge?
Bien sûr que non, c'est la société qui prend en charge. Maintenant, dans les avions.
La société, elle crée les obèses, et derrière, ça va être aux obèses de devoir payer plus cher leur place d'avion. Les compagnies font des millions d'euros chez affaires, ils peuvent pas prendre une autre place moins chère. Enfin, moi, je comprends pas, franchement.
Oui, mais ça rend la place avec vous, Mathieu. Vous n'êtes pas seul.
Mathieu, moi là, je me fais l'avocat du diable. Vous demandez aussi à des personnes qui ne sont pas en surpoids de payer plus cher. La question.
La sécurité sociale. Moi, je fume pas. J'ai payé pour quelqu'un qui a un cancer.
Je suis d'accord.
Moi, je suis jeune. J'ai payé pour les anciens. Moi, je suis célibataire sans enfant. J'ai payé pour les écoles. C'est ça le système français, le système mondial. On nous parle d'entraide et aujourd'hui, on va nous dire vous les obèses, parce que l'obésité, c'est pas considéré comme une maladie. Aujourd'hui, si on est obèse, c'est parce qu'on est des gros, parce qu'on se bat et parce que.
Non, je suis pas d'accord. Ça commence. Non, Mathieu, vous pouvez pas dire ça. Il y a beaucoup de campagnes justement qui ont lieu aujourd'hui pour dire l'obésité, c'est une maladie et tout.
Moi, je suis obèse. Je vous dis, je pesais 78 kilos, je suis monté à 170 kilos. Et le regard, quand je pèse 80 kilos, quand j'en pèse 150, il est totalement différent. Et je suis discriminé quand je suis obèse. Et quand je suis mince, je suis normal, je rentre dans l'avion. Je comprends que quelqu'un qui soit à côté d'un obèse, il soit dégoûté. Mais encore une fois, je pense qu'il peut. On parle pas de 50 places, 3 ou 4 places seulement.
D'accord, vous dites, ouais, c'est ça. Vous dites 4 places dans les avions. Le problème, c'est que si vous avez 4 places, Mathieu, vous savez très bien que derrière, il y a des gens qui vont en demander plus. Et ce sera 8. Et sur quel critère, Mathieu? Sur quel critère? Sur les critères qui réservent lui?
La personne qui est obèse, Eh ben mec, elle fait 150 kilos ou 140 kilos, et là la compagnie jugera si elle a besoin d'un siège métal obèse. En voyageant, honnêtement, vous envoyez beaucoup des obèses dans les avions?
Non.
Moi je voyage, je suis obèse.
Je vois des gens en surpoids, mais pas obèses. Mais en fait, ouais, Mathieu, vous choisirez voilà. vous-même de vous inscrire dans l'avion sur la place réservée, etc. Non, et quel est le critère obligé, mais,
bah, non, une place handicapée, sûr. Tu montres une carte handicapée.
Non, mais Emmanuel, moi demain, quand je sers mon billet, on me demande, je mets oui. Il y aura une option obèse, mais oui, je pèse 150 kilos. Parce que déjà, c'est pas facile quand on monte dans l'avion, qu'on demande l'extension de ceinture et qu'on sait qu'on va passer 12 heures avec des accoudoirs dans le ventre.
Bah, je suis complètement avec vous, Mathieu.
C'est un sujet qui me tient tellement à cœur parce qu'on est trop mis à part les obèses. Et c'est surtout, on dit toujours trop que c'est de notre faute, encore une fois.
Et le regard de la société est horrible. Mais merci, Mathieu.
Merci à vous, en tout cas.
Ben non, mais merci pour ce coup de gueule, Mathieu. C'était très important de vous avoir à l'antenne. Merci beaucoup, Mathieu, voilà, qui ne voit pas pourquoi, en fait, effectivement, les obèses paieraient un supplément dans les transports. Rémi, est-ce que la tonalité est la même sur la pierre RMC?
Ben oui, en général, c'est ça. Il y a quand même une certaine compréhension, Cyril, notamment, qui nous dit on est dans une société qui se doit d'être solidaire. Aujourd'hui, c'est l'individualisme. Et un certain nombre de personnes en état d'obésité souffrent, en fait, moi, de ce que je considère comme étant une maladie. Et on ne peut pas les discriminer parce qu'ils sont en souffrance.
Notre invitée sur ce débat, c'est Anne-Sophie Joly. Elle est présidente du collectif national des associations d'obèses. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous dans Estelle Midi. Alors, on se pose cette question, et cette question, elle est bien sûr très polémique, hein, on le sait. Hein. Faut-il faire payer un supplément aux personnes en surpoids dans les transports? Tout d'abord, est-ce que vous y seriez favorable? J'imagine que non. Et est-ce qu'il faudrait créer des places adaptées?
Alors effectivement, vous devancez ma réponse. C'est effectivement
oui, je le sentais
un
bien.
Un grand non évident. Et je vais vous dire, c'est un marronnier qui remonte quand même, parce qu'il y a quelques années, on avait déjà dû monter au front, il y a environ 15 ans, sur ce même sujet. Et effectivement, parce que là, j'ai écouté vos débats, à ce moment-là, les personnes qui souffrent de maigreur payent la billet d'avion ou d'un billet de train.
Ben non, parce qu'elle ne régle. En fait, elle paye une place. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une place, c'est une place.
Si on le fait au poids ou à la circonférence de la morphologie des gens, enfin voilà, on part dans des dérives qui sont absolument pas du tout entendables. Et je reviens sur quand même une petite information. À ce jour, en France, il y a la moitié de la population qui souffre de surpoids et d'obésité. Et les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, nous dit qu'en 2030, c'est demain, on passe de 17% de la population en obésité à 29%.
Ouais. Et ce sera 50% en 2035 en termes de surpoids et d'obésité. Oui, tout
donc
à fait.
Vous voyez les trucs, c'est-à-dire que là, on a 8,5 millions de personnes françaises qui souffrent d'obésité. Donc on sera à 15 millions en 2030. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné que le tout profit que j'ai du mal à entendre, si on faisait un peu de qualité, de pertinence, qu'on remettait un peu de sens à l'humanité et qu'on arrêtait de penser tout fric, tout azimut. Parce que les compagnies aériennes, il faut quand même savoir un truc, c'est que ce soit les compagnies aériennes ou les compagnies de transport, doivent assurer la sécurité de leurs clients.
Oui.
Je
tout
parle
à fait.
Bien de sécurité. Et que lorsque vous ne pouvez pas bouger vos jambes et que vous êtes à risque de phlébite en sortant d'un avion pendant 3 jours, est-ce que les gens le savent? Je ne pense pas. Et que si vous déclenchez un problème cardio-métabolique en sortant d'un avion après 3 jours, vous pouvez vous retourner contre la compagnie aérienne.
Alors qu'est-ce qu'on fait, Anne-Sophie Joly?
Eh ben, on arrête de faire des... Parce que là, c'est ce que je discutais, et je suis complètement d'accord sur les trains corail. Les trains corail, qui étaient effectivement de deuxième classe, que certaines générations comme la mienne connaissent bien, ben, en fait, on adapte les morphologies de la population au type de transport. Plus on avance dans le temps, plus les tailles de sièges sont petites. Pour aller dans le rendement.
Oui, mais ça bien sûr, mais après, encore une fois, Anne-Sophie Joly, qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui fait 2,15 m?
Moi, je vais vous donner ma vision des choses. Ouais. C'est qu'on adapte les fauteuils et la distance des genoux à égalité pour tout le monde. Alors, évidemment, ils vont vendre un peu moins de sièges.
Ah, bah oui.
Voilà, ils vont vendre un peu moins de sièges, mais au moins, j'ai envie de dire, on aura peut-être un peu plus de place. Enfin, mais... c'est pour moi, excusez-moi, mais il y a des fois, on rentre dans des avions, c'est des bétaillères.
Hein. Mais je suis d'accord, mais Anne-Sophie Joly, par exemple, il y a des compagnies qui, à un moment, avaient créé des vols Paris-New York uniquement avec des premières classes. C'est-à-dire qu'en fait, c'était même pas le fait de manger bien, etc., mais c'est le fait d'avoir plus de place. Donc, c'était des avions avec des places réduites. Ça s'appelait l'avion, justement. Bon, ils ont fermé, tout simplement, parce que malheureusement, ces avions-là, mais ils coûtaient horriblement cher. Si vous mettez un avion avec 400 places, bah vous paierez, je dis n'importe quoi, mais votre vol 100 euros. S'il y a plus que 200 places dans l'avion, bah vous paierez votre billet 200. Donc après, est-ce que les gens vont être prêts à payer, leur billet 2, 3, 4 fois plus cher parce qu'on met des places plus grandes? Mais je suis pas sûre, Anne-Sophie Joly, je suis pas sûre.
Pas tout le monde. Mais alors, je vais vous dire, Estelle, pour moi, le nœud de la solution du problème, et ça a été dit par l'auditeur qui est derrière, évidemment, l'obésité, ce n'est pas un choix dit.
Bien sûr, mais on est d'accord.
Et il faut que l'obésité soit reconnue comme étant une pathologie en France. Ça, au-delà de l'OMS qui l'a reconnu quand même depuis 1997.
Bien sûr.
Il faut que ça soit, et c'est ce qu'on réclame, et c'est ce qu'on a encore réclamé il y a une dizaine de jours à l'État. On a avancé en France beaucoup, mais il faut la reconnaissance de l'obésité comme étant une pathologie qui en déclenche 18 autres. Que le Covid a été la 19e où on a payé excessivement le prix très très fort, et qu'on fasse un plan interministériel sur 10 ans tel un plan cancer. En dessous de ça, on n'y arrivera jamais. Et qu'effectivement, il faut voir la problématique à 360 degrés, c'est-à-dire l'agroalimentaire, l'éducation des personnes et l'information sur les conséquences qu'on peut avoir sur la santé, que les transports rentrent en ligne de compte. Et moi, je suis désolée, on doit adapter les morphologies aux transports et pas l'inverse.
Non, les transports aux morphologies. Parce que sinon, ça me paraît plus simple. Alors attendez, on va terminer aussi Anne-Sophie Joly avec le témoignage de Marie-Christine qui nous appelle des Yvelines, qui est secrétaire médicale. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Estelle.
Bonjour. Et vous vouliez réagir sur ce sujet.
Oui, parce que moi j'y m'est arrivé quelque chose justement avec une personne de taille épaisse. Je prends régulièrement le TER et figurez-vous qu'il n'y a pas que eux en fait qui ont des problèmes. Et je suis désolée, moi dans ce TER, j'étais enceinte de 8 mois et demi. Il s'avère qu'il est resté une seule place à côté de cette personne. Et ça ne me dérange pas. Je comprends que les personnes obèses soient une pathologie. Et c'est vrai que ce n'est pas un choix de vie. Et j'ai entendu les auditeurs précédents. Je comprends parfaitement. Mais à un moment donné aussi, il y a une mentalité. Et la mentalité, en l'occurrence, de cette personne, c'est j'ai demandé si elle pouvait se coucher. Parce qu'enceinte de 8 mois et demi, il était très très chaud. Je n'en pouvais plus. La personne s'est mise à souffler. Enfin, il y a un moment, je suis désolée, je comprends très bien, je suis désolée, mais j'ai été moi-même désarçonnée, je me suis dit, ah bah très bien, je vais rester debout, enceinte de 8 mois et demi, collée entre tout le monde, je rentrais chez moi, opérée, d'accord, je reste, bah non, je suis pas d'accord, elle se pousse. Donc, bah, je l'ai forcée à se pousser, et on était tous les deux, voilà, je sais que c'est pas facile, mais à un moment donné, les autres gens aussi ont le droit de s'asseoir, voilà.
Non mais en fait dans ces cas-là, ce qu'il faudrait peut-être, merci Marie-Christine pour ce témoignage, mais Anne-Sophie Joly, c'est ce que vous dites, c'est que pour éviter ce genre d'incident, notamment dans les transports, effectivement avoir des places, il y a des places handicapées, on pourrait imaginer des places réservées aux personnes en surpoids dans les transports, quoi.
C'est tout le wagon.
Oui, parce qu'en plus on a du mal à rester debout, hein, sur la stature, effectivement, genoux, cheville, hanche, c'est compliqué. Mais pour répondre à la dame qui vient d'évoquer le sujet, moi, enceinte, en situation d'obésité, les gens ne voulaient même pas se lever pour me laisser le siège.
Oui, non mais j'entends.
Dans ce cas-là, donc la bêtise, on n'a pas besoin d'être atteint d'une pathologie ou pas pour l'avoir. Hein. Donc là, je ne ferai pas d'amalgame là-dessus parce que
l'inclusion se fait peut-être par la bêtise.
Comme
il ne devait pas y avoir que des obèses dans ce wagon, il y avait par contre que des goujats parce que personne ne se soignait.
Je pensais que c'était une femme de 8 mois et demi.
Une femme enceinte de 8 mois et demi, c'est quand même un vrai problème.
Exactement. Je suis d'accord, mais c'est vrai que s'il y avait des places spéciales, eh bien, on n'aurait pas ce genre de problème et ça faciliterait la vie de tout le monde. Merci Marie-Christine d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Anne-Sophie Joly d'avoir été notre invitée sur ce débat. Et puis effectivement, si la moitié de la population mondiale est en surpoids ou obèse d'ici 2035, les choses devraient bouger assez rapidement. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi, Rémi.
Les obèses doivent-ils payer plus cher? C'est non pour 73% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Bravo les gens. Voilà. Allez, dans un instant, RMC Conso avec Charlotte Méritant. On va parler de la folie des colis mystères sur Internet et sur les marchés. Est-ce que c'est un bon plan? Est-ce que c'est une arnaque? On en parle avec vous dans un instant dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h35, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. On parle conso tout de suite avec Charlotte Méritant, RMC Conso.
Estelle Midi,
RMC Conso.
Et on parle à Charlotte. Aujourd'hui, c'est ma grande passion, de la folie des colis mystères. C'est hyper tendance depuis quelques semaines. En fait, ce sont les ventes de ces colis perdus. On nous dit les colis sont perdus, vous pouvez les racheter pour 2 euros, mais vous savez pas ce qu'il y a dedans.
Exactement. Et le problème, c'est qu'il y a un business autour de ça qui est à peu près sérieux. Après, on en pense qu'on veut au niveau du contenu de ce qu'on trouve à l'intérieur. Mais il y a aussi énormément d'arnaques qui se sont développées. Aujourd'hui, on trouve de ces colis partout, à la fois dans les marchés, dans des boutiques éphémères, etc. Mais aussi en ligne, et surtout en ligne. Et donc, il y a de faux sites qui ont été créés par des petits malins qui s'amusent donc à faire des arnaques autour de ça. Et c'est un vrai fléau. D'ailleurs, 60 millions de consommateurs a alerté sur son site et disaient recevoir de plus en plus de plaintes.
Mais c'est-à-dire que les gens commandent ou ne reçoivent rien, ou alors il y a rien dans le colis, quoi.
Oui, il y a les deux possibilités. Soit ils commandent, ils payent et ils ne reçoivent rien. Soit ils reçoivent quelque chose, mais c'est en fait un colis fabriqué de toutes pièces avec des babioles achetées probablement sur des sites chinois, remballées et vendues entre 10 et 15 euros le kilo.
Mais comment on repère ces sites frauduleux? Comment on fait la différence entre pas d'arnaque et des arnaques?
Oui. Alors, premier conseil, si vous voyez un logo de La Poste sur le site Chronopost ou Colissimo, en gros toutes les filiales de La Poste, arnaque. Parce que eux ne vendent pas les colis qu'ils perdent. Soit ils les renvoient à l'expéditeur, et si vraiment ils ne peuvent pas, ils font une vente aux enchères tous les ans en décembre pour vendre ce qui a été perdu et qui n'a pas retrouvé d'expéditeur ni destinataire.
Bah alors, on prend les colis quoi? Mondial Relais ou...
En fait, ils achètent des lots à des logisticiens. Donc, il y a un mélange de tout. Il peut y avoir du Mondial Relais, DHL, etc. Les transporteurs semblent dire qu'ils ne le font pas. En fait, il y a une espèce de flou autour de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des tonnes de colis arrivés sur palette avec un mélange d'absolument tous les transporteurs, sauf La Poste.
Alors moi, j'ai entendu des gens disant « Ouais, c'est trop génial, j'ai eu un iPhone et tout, et j'ai payé que 5 euros. Ouais. » Bon, évidemment, j'y ai cru, mais en fait, non, quoi.
C'est très, très peu probable que quelqu'un ait trouvé un iPhone. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les marques qui envoient des iPhones, des Samsung ou d'autres marques de téléphones chers, ça leur coûte moins cher de demander le rapatriement du produit à leur entrepôt plutôt que de le vendre à des logisticiens en tant que colis perdu. Ils veulent récupérer leurs marchandises pour pouvoir les revendre après sur leur site. Donc c'est fortement peu probable. Ça peut arriver, me disait un des vendeurs de ces colis perdus, dans le cadre de pertes de colis entre particuliers, mais en fait c'est une partie vraiment très très minime de ces colis.
Donc moi j'ai déjà tenté en me disant je vais obtenir un truc génial.
Et
en fait, non, c'était nul, évidemment.
Oui, évidemment.
Et donc, ce sera toujours nul, c'est ça que vous me dites.
Je ne peux pas le garantir. Et il paraît qu'il peut y avoir quand même quelques bonnes surprises. Mais en tout cas, la probabilité, c'est comme le loto, quoi.
Ah, oui, donc c'est assez faible.
Je pense.
Autre conseil pour ne pas se faire arnaquer, Charlotte.
Oui, cherchez le numéro ciré de l'entreprise sur le site internet. Normalement, c'est obligatoirement indiqué, cirette. Dans les conditions générales d'utilisation, puisque forcément le site doit être enregistré au registre du commerce et des sociétés. Si on n'en trouvait pas, c'est sûrement une arnaque. Par exemple, un site qui s'appelle Flamingo Colis que j'ai repéré, pas de numéro de sirette et un nom qui ressemble étrangement à un des leaders du secteur qui s'appelle Flamingo Box, donc c'est sûrement une usurpation d'identité.
Donc on vérifie aussi l'identité de celui qui tient le site, c'est-à-dire qu'on commence à 8h, on termine à 19h.
Hein. Bah, c'est toujours un peu comme ça parce que.
Moi j'ai déjà plus envie de mon colis, quoi, je vous le dis.
Il y en a qui sont tellement forts qu'ils se contentent de recopier le nom d'un autre. En fait, c'est le cas par exemple pour le site achatcolisperdu.com. Il y a le nom de William Mourière qui apparaît, sauf que William Mourière, c'est justement le gérant officiel de Flamingo Box. Donc il a juste son identité qui est usurpée malheureusement. Donc faites attention à ça aussi.
Et on sait qu'il y a des ventes de colis comme ça aussi dans les supermarchés. Là, on peut faire confiance ou pas?
Bah, à la limite, autant si on veut vraiment investir là-dedans, aller sur place, effectivement, boutique éphémère dans les centres commerciaux. Il y a même une boutique dans le Val-de-Marne maintenant qui est physique et qui est durable, enfin qui
avec des colis
est permanente avec des colis mystères. Ouais.
Ça et là, c'est pas une arnaque, on peut avoir des trucs de fou.
Bah, c'est toujours pareil, hein, c'est le hasard complet. Vous avez quelque chose, il y a quelque chose dans le colis. Est-ce que vous allez trouver quelque chose qui a de la valeur? Ça, personne ne peut le garantir. Mais bon, en tout cas, recherchez toujours l'adresse parce qu'il y en a qui immatriculent aussi leur entreprise à l'étranger, comme au Nouveau-Mexique pour Lost Colis aux États-Unis. Donc là,
c'est
quand même très, très louche aussi. Donc faites attention à tout ça.
Je suis dégoûtée. Mais vous m'avez brisé, mon rêve.
Mais après, je vous invite à essayer et à me dire si vous faites une trouvaille extraordinaire.
J'ai un copain qui l'a fait. Il s'est retrouvé avec un pull chinois 8XL.
80% de ce que vous trouvez dedans, ça vient de Chine.
Ouais. Franchement, ce qui est marrant, c'est de voir les gens qui tâtent le colis pour essayer de deviner ce qu'il y a à l'intérieur.
Franchement, c'est bientôt Pâques. Tu t'achètes un œuf en chocolat surprise et puis voilà.
Un Kinder.
Les bons vieux classiques.
Merci beaucoup, Charlotte Méritant et RMC Conso tous les jours dans Estelle Midi à 14h30, on parle de quoi demain ?
Alors demain, on parle de saucisson. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la confrérie de la noble Rosette, du fin saucisson et du bon Jésus ?
Non.
C'est à Lyon, j'imagine.
Exactement.
Ah oui, à Lyon.
C'est une arnaque. Non, pas du tout. C'est pas une arnaque. On va voir comment choisir un bon saucisson, repérer saucisson artisanal, saucisson industriel.
Déjà, quand il y a marqué 8€ les 8 saucissons, tu prends pas. Ça, c'est déjà un bon conseil.
Si le saucisson est fait au Nouveau-Mexique, méfiance.
Il y a des saveurs un peu chelou.
Et si le saucisson n'a pas de numéro sirette.
Merci beaucoup, Charlotte Méritant, RMC Conso. Dans un instant, soyez. La Ligue des Champions, Rémi.
C'est l'alerte. Vous venez d'entendre l'alerte Ligue des Champions. Si vous voulez remporter votre place pour le match PSG FC Barcelone, quart de finale de la Ligue des Champions qui jouera le mercredi 10 avril prochain, et vivre l'expérience RMC, la visite de nos studios, la rencontre de nos équipes, eh bien c'est maintenant que ça joue. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant le mot PSG par SMS au 732-16. PSG par SMS au 732-16.
Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h45, c'est Estelle Midi, vous êtes dans la dernière partie et dans cette dernière partie, vous le savez, on vous donne toutes les infos qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui. Voici les immanquables.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et Rémi, nous allons commencer ces immanquables avec le recours du jour et c'est assez insolite.
Ouais, le tribunal administratif de Pontoise a commencé à étudier hier 12 recours déposés par autant de familles pour dénoncer le trop grand nombre d'heures de cours non assurées faute d'enseignants. C'est une première. Les parents concernés réclament jusqu'à 10€ par heure de cours perdu et par élève.
Mais en vertu de quoi ?
Ah bah que c'est un manquement de l'État.
Ah oui, on est dans le public, on n'est pas dans le privé.
Ah non,
on est dans le public.
Non, évidemment.
Emmanuel Dancourt, est-ce que vous trouvez ça juste comme réclamation de la part des parents de demander 10€ par heure de cours perdu pour leurs enfants ?
Je trouve ça étonnant, j'avoue que j'y aurais pas pensé, moi.
Mais moi non plus.
J'y aurais pas pensé, je pense que ça a peu de chances d'aboutir. Ils font ça, c'est symbolique, j'imagine, pour essayer de t'attirer l'attention. Symboliquement, je le ferais. Après, évidemment que ça... Je pense qu'on n'aura pas d'impact, mais la preuve, c'est qu'on en parle. Et ça met le doigt sur un sujet qu'on connaît absolument tous, qu'on a déjà traité ici, qui est le manque, effectivement, de professeurs ou l'absentéisme aussi, quand ils sont là, des professeurs. Après, faut voir les établissements aussi. On voit qu'il y a des établissements qui tombent en lambeaux. On a des professeurs qui ne se sentent pas en sécurité dans d'autres. Donc, tout ça est complexe, mais les parents ils jouent leur carte, à vrai dire. Ils jouent leur carte. Je pense que je ne l'aurais pas fait, mais moi, je suis dans les conseils de classe et voilà, je tortille, mais peut-être même torture, le principal du lycée quand on n'est pas content. Il y a quand même des instances pour dire ça, en réalité. Il y a les instances par lesquelles on passe, de parents d'élèves. Quand ça bouge après, pas... Non, mais c'est intéressant comme méthode.
Et est-ce qu'il faut judiciariser
après, est-ce qu'il faut tout judiciariser,
l'absentéisme ou demander réparation en espèces sonnantes et trébuchantes. Moi, j'avoue qu'il y a quand même un truc qui me gêne, Pierre-Emmanuel, Pierre-Édouard.
On va y arriver, c'est quand même. le sujet, on peut discuter effectivement de l'évaluation, c'est-à-dire en quoi le fait de ne pas avoir d'heure de cours crée un préjudice qui serait estimé à 10€ de l'heure et par famille. Non mais c'est la solvabilisation. Après, par définition, malheureusement, on judiciarise tout parce que c'est le seul moyen. La démocratie est bloquée parce que les corps intermédiaires ne font plus leur œuvre, parce qu'ils sont plus considérés, parce qu'on ne sait plus pour qui voter, parce que l'abstention est à 40%, etc. La seule arme qui reste pour s'attaquer à un problème, c'est l'arme judiciaire, parce que n'importe qui peut saisir le tribunal. Ça reste l'arme du pauvre, fondamentalement. Et quand je dis du pauvre, c'est pas qu'une question pécuniaire, c'est même le pauvre en moyen. Si ses parents, s'il y avait 2 millions de parents dans la rue contre l'absentéisme scolaire ou le manque d'enseignants, c'est-à-dire que ça bougerait. Aujourd'hui, personne ne s'est mobilisé, 2 millions de personnes sur un sujet comme ça. Je le regrette, y compris à titre personnel. Donc, qu'est-ce qui reste quand on n'est pas nombreux pour faire bouger et faire qu'on en parle, ce qu'on fait cet après-midi? Eh ben, effectivement, c'est l'arme judiciaire. Après, c'est sûr que par certains côtés, c'est une dérive. Tout devient judiciarisé. On demande au juge de tout décider, ce qui est un autre débat.
La hausse du jour.
Les crimes ou délits à caractère raciste, xénophobe ou anti-religieux ont augmenté de 32% en 2023 par rapport à 2022 en France, dans un contexte on sait de fortes tensions au Moyen-Orient. C'est ce qu'indique un rapport du service statistique du ministère de l'Intérieur dévoilé ce matin.
Est-ce qu'il faut punir plus sévèrement, Fred, ces crimes et délits à caractère raciste, néophobe ou anti-religieux?
Oui, bien entendu, mais il faut surtout expliquer d'où ça vient. C'est l'antisémitisme qui explose dans notre pays. Donc,
oh, mais là, pas que. Hein.
Surtout l'antisémitisme.
Oui, mais il y a l'homophobie aussi.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais je veux dire, dans
le racisme, la xénophobie.
Là, il y a un cap qui a été franchi. Là, dans le nombre d'incidents.
Là, on est dans des records d'actes antisémites terribles depuis le terrible pogrom du 7 octobre. Donc voilà, ça augmente aussi par ça. Bien sûr qu'il faut être intraitable, mais il faut aussi être intraitable dans beaucoup d'universités, dans le discours de plein d'hommes politiques, etc. Oui, c'est bien entendu, il faut être intraitable. Mais ça ne va pas s'arranger, quoi, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est accepté dans certains secteurs de la société et de la classe politique.
Alors, encore une fois, il y a de l'antisémitisme, évidemment, mais il y a encore voilà, d'autres choses, du racisme, de la xénophobie. Et c'est vrai qu'on se dit quand même, Pierre-Edouard, voilà, on est au 21e siècle, et voir encore ces actes augmenter, ben, ça fait froid dans le dos, quoi.
Ah ben c'est évident, on est dans une société fracturée, le racisme est un des signes d'une fracturation d'une société, puisque c'est un rejet de l'autre sur couleur de race. D'ailleurs, les races qui n'existent pas, ne mettons jamais de rappeler que les races au sens biologique n'existent pas entre les
chez les chiens, mais pas chez les humains.
On est bien d'accord, il faut jamais oublier ce que même ce mot est en fait un propre en lui-même. Moi, ma crainte en ce moment, c'est que je trouve qu'on vit un espèce de retour aux années 30 et où effectivement, le racisme, l'antisémitisme pourraient redevenir des opinions alors qu'ils sont des délits, là aussi, ne mettons jamais de l'oublier. Et moi, c'est un peu la crainte dans laquelle je vis, c'est qu'on voit une certaine dérive, et après des dérives dans tous les coins, c'est-à-dire que, je viens sur ce qui s'est passé le 7 octobre, moi je ne veux pas choisir entre un pogrom par des terroristes sans nom, et en même temps, la politique fasciste d'un gouvernement d'extrême droite. Or, on est dans une société où on finalement on voudrait m'amener à forcément faire un choix. Moi, je refuse de choisir. Je ne suis pro et anti ni Hamas ni Netanyahou. Je suis, alors on peut être pro paix, mais que tout le monde est pour la paix et pour le bonheur. Mais je veux dire, le problème, c'est aussi un moment de ramener le sujet sur un débat politique. Le débat politique, c'est de dénoncer un acte terroriste pour ce qu'il est, un acte terroriste, un acte ignoble pour ce qu'il est, un acte ignoble, un acte antisémite pour ce qu'il est, un acte antisémite. Mais une politique d'extrême droite d'un gouvernement, comme une politique d'extrême droite d'un gouvernement.
Ça devient parti là.
On est avec. On va terminer avec Vincent Cerroussi. Notre humoriste Cerroussi n'a pas tout compris.
RMC Estelle Midi.
Cerroussi n'a pas tout compris.
Salut Vincent.
Bonjour. Salut à tous.
Vincent, aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi Emmanuel Macron veut envoyer les jeunes dealers en internat.
Ben oui, Macron veut envoyer les jeunes dealers dans des internats parce que
c'est notre projet.
Ça lui tient très à cœur, hein, visiblement. Bah, après, s'il y a des dealers dans les écoles, je pense que les CPE vont être un petit peu perdus. Hein. Vous faites de la pâtisserie? Non, parce qu'il y a beaucoup de farine ici. En tout cas, s'ils le font, ça va être les internats les plus festifs de France. Bienvenue dans l'internat Pablo Escobar, au programme de l'année Mathematica, Historia, Cocaïna, Héroïna, sortez vos calaches, on va commencer la dictée. Voilà, ça promet. Hein.
Mais vous pensez pas que ça peut être une solution quand même?
Bah, écoutez, si c'est dans les internats catholiques, moi j'ai quand même hâte de voir les jésuites foncer, hein, je vous cache pas. Même les élèves, ils vont changer. Hein. Jean-Eudes, as-tu découpé le chichon, s'il te plaît? Les clients sont déjà là. Je te parle même pas des nouveaux problèmes de maths. Sachant que je possède 8 kilos de bœufs, combien de temps cela prendra-t-il de rouler 160 spliffs? Au moins, les dealers auront des bonnes notes, ils ont la réponse.
Non, mais quand même, sérieux, il y a quand même eu 82 interpellations pour trafic de drogue depuis lundi.
Oui, enfin, 82 interpellations, faut les voir, les interpellations. Hein. Hey, arrêtez! Voilà, fin de l'interpellation. Non, mais c'est vrai. Bon, Emmanuel Macron est allé à Marseille, hein, visiblement, il y avait plus de coke à Paris, il a été se fournir directement là-bas. Je dis pas que le président prend la drogue, mais bon, quand j'entends ça.
L'argent ne se mange pas, il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas, il ne s'aime pas.
Je me pose des questions quand même, Estelle, excusez-moi, je me permets quand même. Hein.
Je prends de la cocaïne.
Non, mais attendez, après, c'est pas le seul à consommer de la drogue, il y a un Fred Hermel aussi, visiblement.
L'homme de gauche que je suis, malheureusement. Ouais.
Mais ça, c'est à chaque émission.
Exact.
À chaque émission, on est à droite.
C'est terrible.
Ça, c'est plus l'alcool. C'est
Vincent, dans l'émission, on s'est également demandé si les obèses devaient payer leur place plus chère dans l'avion.
Alors déjà, je voudrais dire que je n'ai rien contre les personnes à taux de cholestérol fortement développé et à la superficie corporelle importante. J'ai moi-même un ami qui a des bourrelets. Je respecte vraiment les personnes obèses et je sais à quel point c'est difficile. Voilà. On va pas passer aux critiques maintenant. C'est Ryanair. Hein. C'est Ryanair qui a proposé de faire payer un supplément par kilo pour les personnes obèses. En gros, t'arrives chez Ryanair, tu sais pas si t'es un humain ou un bagage à main, quoi. C'est un peu n'importe quoi. Et en même temps, c'est vrai que je peux comprendre. Je veux dire, bon, déjà que chez Ryanair, les pneus des avions, ils sont mal gonflés. Le vol Paris-Barcelone, il coûte 9 euros. Voilà. Tu vois deux, trois personnes en surpoids qui arrive, tu te dis bon, on va peut-être pas l'avoir la Sagrada Familia, quoi. Ça fait un petit peu peur. Voilà,
non, mais vous comprenez que les personnes obèses sont discriminées quand même.
Bien sûr, bien sûr. Et personne ne doit être discriminé. Mais bon. Voilà, dans l'avion, le siège, il coûte 850 euros, t'es assis à côté d'un obèse, il prend la moitié de ton siège, j'ai rien contre toi, mais fais-moi un Lydia, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai déjà été assis à côté d'une personne obèse dans l'avion, mec très sympa, hein. Mais bon, j'ai commencé le voyage impeccable, je suis arrivé avec une scoliose, voilà, j'étais tellement serré, j'ai fusionné avec le hublot, c'était quand même pas évident. Non, mais après, c'est un côté rassurant quand même, hein. T'es dans l'avion, tu te dis en cas de crash, ça fait airbag, mais bon, t'es quand même un peu serré, faut le dire.
Bon, les compagnies aériennes pourraient faire un effort aussi.
Non, oui, complètement. C'est pas la faute des obèses, hein, faut le dire. C'est aussi aux compagnies aériennes de s'adapter. Ils pourraient créer une nouvelle compagnie aérienne. Je sais pas, Cholestévol, par exemple, pourquoi pas. Non, mais ils auraient pas le droit d'aller en Grèce. Ils auraient pas le droit d'aller en Grèce.
Oh, non.
Non, mais les obèses se sentiraient plus inclus. Ça, c'est une bonne chose.
Vincent Serroussi n'a pas tout compris tous les jours dans Estelle Midi. Et tout de suite, c'est Vincent Moscato. On est très, 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 très en retard.
On est très
Vincent,
Vincent,
va falloir
surtout.
Faire très vite, là. Alors, oui, bon, on est hyper en retard, là. On va bien. Allez.
Oh, salut, ça fait plaisir.
Alors,
de te voir. T'as moins de 10 minutes.
Oui.
On continue de faire le bilan du tournoi.
Encore
Quel
bilan
du tournoi. Vous savez, ça passe. Ça a tenu une semaine. Parce que la prochaine, on va y avoir du vide. Parce qu'on aura tout fait. A-t-on encore un doute sur Galtier? Il y a une conférence de presse.
Oui.
Oui, bon. Ange Capuzzo.
Ah oui.
Les liens de l'Italie.
Ah oui, j'ai vu.
C'est incroyable. Ange Capuzzo. Je vais te dire un truc.
Super, c'est un bon débat.
Les liens du 15 d'Italie seront. Notre amitié.
Ah oui, non, très bien.
Ah ouais. Là, c'est pas pareil.
C'est différent.
Piqué, le foot doit-il faire sa révolution? Alors, les mecs, ils veulent faire sa révolution, c'est-à-dire qu'ils veulent modifier quelqu'un. Déjà, ils n'arrivent pas avec la caméra, ils disent non, c'est pas possible. Mmh. Mais mec, un micro là, ils disent ah, mais non, ça marchera jamais. Mais si, ça marche dans tous les sports, donc c'est
quand même. Il veut tout révolutionner.
Donc, il veut révolutionner, donc ça marchera pas. Benzema, il s'en passe au JO. Et
moi aussi, super.
Moi aussi, je vais aller au JO. Alors,
c'est parti. Vincent Moscato, le super Moscato Show, c'est tout de suite. Et on se retrouve demain, midi 15h, restez midi. Salut à tous.
RMC jusqu'à 18h.
Le super Moscato Show.